Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les bulles nomades, le streetcast optimiste. Je m'appelle Florie Vin, alias Florie Taylor, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler un peu d'inspiration créative et du rôle de l'imitation et de l'influence dans tout ça. Que ce soit pour une pratique créative ou artistique, ou de manière générale pour un projet que vous avez en cours dans votre vie, rien ne naît de nulle part. En tant qu'être humain, nous sommes conçus pour apprendre par l'imitation. Et en tant que culture en général humaine, nous construisons à partir de ce que d'autres avant nous ont imaginé, trouvé, mis en place, etc., etc. Donc, toute initiative qu'on peut avoir, que ce soit quelque chose de créatif au sens premier du terme ou pas, se place dans un écosystème créatif, si on veut. C'est-à-dire que dans cet écosystème se trouve tout ce qui a été fait par d'autres personnes par le passé, ce qui a été découvert par les autres, et tout ce que font les personnes qui œuvrent en ce moment dans le même domaine que nous. C'est-à-dire qu'en tant qu'humanité, on apprend à partir de ce que les autres êtres humains ont créé, globalement. Et ensuite, on va apporter quelque chose en plus à ce que tous les autres ont créé jusqu'à maintenant. Et alors j'aime cette vision des choses, cette vision de l'écosystème créatif, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que ça sous-entend que toutes les parties de l'écosystème ont quelque chose à apporter, même la personne qui débute tout juste, tout simplement parce qu'on apporte notre contribution, notre expérience, nos découvertes au fur et à mesure qu'on avance, et tout ce qui constitue notre voix singulière quelque part. Par exemple, quand on débute dans un domaine, on apprend davantage de quelqu'un qui débutait il y a quelques mois à peine et qui partage ses avancées maintenant, que de quelqu'un qui est un grand maître dans le même domaine et qui a tellement d'années d'avance sur nous qu'il n'a même plus conscience des problèmes qu'on a quand on débute, et nous ça nous paraît tellement loin que ça nous apporte rien, que ça nous encourage pas quelque part, vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est un truc dont je me suis rendu compte dans le domaine de l'aquarelle par exemple. J'apprends plus de cours de gens qui étaient débutants il n'y a pas si longtemps que ça et qui ont encore conscience des problèmes que j'ai en tant qu'aquarelliste qui débute ou intermédiaire, etc. Du coup, tous les niveaux apportent quelque chose à l'écosystème, même les gens qui débutent ou qui débutaient il y a peu de temps. Donc voilà, première raison pour laquelle j'aime cette vision des choses de l'écosystème, c'est que chacun a quelque chose à apporter. Ensuite, j'aime cette vision des choses de l'écosystème créatif parce que c'est une vision que je trouve hyper positive et constructive des choses. Dans le sens où les autres acteurs de notre milieu ne sont pas des concurrents, ce sont d'autres éléments de l'écosystème. On ne peut pas vraiment prendre leur place, et ils ne peuvent pas vraiment nous prendre la nôtre non plus. Ils nous volent rien et on leur vole rien quelque part. Par contre, on peut s'en inspirer et leur apporter des choses à notre tour. Donc en fait, c'est une vision qui est beaucoup plus coopérative, plutôt que compétitive, et je sais pas pour vous, mais moi, ça me motive et ça me rassure beaucoup plus d'avoir cette vision coopérative des choses. Donc voilà pour cette petite explication autour de l'écosystème créatif. Donc maintenant, quand on arrive dans une nouvelle pratique avec un nouveau projet, que ce soit lancer ma petite marque de bijoux, de savon, lancer un podcast, écrire des livres ou autre chose, l'idée va être de découvrir notre nouvel écosystème et d'apprendre à s'y faire une place. Et c'est là que l'inspiration créative entre en jeu, et c'est là donc que l'imitation, l'influence et l'inspiration entrent en jeu. Parce que pour moi, il y a trois étapes intéressantes à prendre en compte pour tirer parti de l'outil puissant qui est l'inspiration créative, c'est donc l'imitation, l'influence et l'inspiration. Donc première chose, l'imitation ou la copie, ça veut dire reproduire à l'identique ou quasiment à l'identique le travail, le concept, la méthode de quelqu'un d'autre. Donc ça c'est le tout début. Quand on débarque et qu'on ne sait pas du tout comment faire, on imite pour apprendre, pour développer un savoir-faire, pour mieux comprendre comment ça marche, pour défricher nos préférences, nos talents, etc., etc. Donc par exemple, on va tester plusieurs méthodes d'écriture qui sont recommandées par des écrivains dans des livres, dans des articles de blog, dans des podcasts, dans des vidéos, etc. Et puis en imitant ces méthodes-là, en les testant à l'écriture d'une nouvelle par exemple qu'on va faire, on va constater ce qui marche ou pas pour nous. Et c'est en imitant ces méthodes d'écriture conseillées par d'autres qu'on va pouvoir piocher ce qui nous convient et construire petit à petit notre propre méthode d'écriture qui est la plus efficace pour nous personnellement en fait. Mais ça on peut pas vraiment deviner ce qui nous convient tant qu'on n'a pas testé différentes choses quelque part, tant qu'on n'a pas imité les méthodes que d'autres écrivains ont conçues avant nous. Ou un autre exemple, on va suivre des tutos d'aquarelle en reproduisant le projet du prof. Donc on va reproduire quelque part une aquarelle similaire à l'aquarelle du prof, et en chemin on acquiert des compétences techniques, et puis à mesure qu'on reproduit du coup cette aquarelle avec les explications du prof, etc., on comprend comment marche l'aquarelle et on va développer des préférences pour telle ou telle manière de peindre. Donc là, c'est deux exemples de sujets artistiques, mais pour des sujets un petit peu différents, ça peut être reproduire le format de notre podcast préféré, par exemple, ou tester une certaine méthode d'organisation en tant que solopreneur, etc., etc. Ce qui est important avec l'étape d'imitation, c'est de se rappeler qu'il n'y a pas de mal à copier pour apprendre, puisque c'est comme ça que l'être humain apprend, en fait. Par contre, on ne s'approprie pas le travail d'autrui. Quand je crée des aquarelles, par exemple, sur la base d'un cours Skillshare ou d'un tuto YouTube, je cite le ou la prof grâce à qui j'ai pu créer l'aquarelle. Et si je copie une œuvre de quelqu'un qui n'a rien enseigné, qui n'a rien demandé, qui n'a pas encouragé à reproduire l'œuvre, je garde la copie pour moi et je ne la poste nulle part. En fait, c'est ça la limite entre la copie pour apprendre, ce qui est tout à fait ok, et je vous invite à ne pas vous censurer et à copier tout ce que vous voulez pour apprendre, mais par contre, c'est ça la limite aussi avec le plagiat qui lui pose un certain nombre de problèmes éthiques. Le plagiat, c'est quand on s'approprie le travail de quelqu'un d'autre et c'est là que c'est pas ok quelque part. Donc voilà pour la première étape de l'inspiration créative qui est imiter, copier, reproduire pour déconstruire les méthodes, tester ce qui nous convient et apprendre. Ensuite, la prochaine étape de l'inspiration créative, c'est l'influence. Mais avant d'aller plus loin, un petit rappel. Je produis ce podcast sur mon temps et mes données personnelles et je tiens à ce qu'il reste sans pub. Vous pouvez me soutenir pour le prix d'un café sur patreon.com/floriteller. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui le font déjà. Donc, deuxième étape, l'influence, c'est quand on pioche des choses qui nous plaisent chez les uns et les autres, qu'on assemble ensuite dans une œuvre ou un projet qui n'est pas exactement identique à notre source d'influence. C'est bien quelque chose qui est personnel, mais où on a été influencé par le travail de quelqu'un d'autre. Donc, l'influence est quelque chose qui peut se faire ouvertement, par exemple sous forme d'hommage. Donc, par exemple, je vais écrire un mystère cosy de type Whodunit en hommage à Agatha Christie, et qui va reprendre certains de ses codes, comme par exemple rassembler tous les suspects à la fin de l'histoire pour révéler qui est coupable. Donc là, je vais activement prendre l'influence d'Agatha Christie, écrire une histoire en hommage à Agatha Christie, mais ça va être avec un univers et des personnages originaux, une histoire, une enquête qui est la mienne. Donc ce n'est pas du plagiat d'Agatha Christie, ce n'est pas de la copie d'Agatha Christie, mais ça va être un hommage à Agatha Christie. Vous voyez la différence entre l'étape imitation et l'étape influence. Il va y avoir des aspects qui sont propres à moi, mes personnages, mes histoires, mon univers, mais je vais piocher quelque chose dans cette personne-là, je vais me laisser influencer et je vais le dire, je vais dire voilà, c'est un hommage. Donc après, les influences peuvent être là, mais sans le dire ouvertement. Par exemple, si vous allez mettre des elfes et des nains dans vos histoires de fantasy, c'est influencé par Tolkien, par exemple, et c'est influencé plus largement par le folklore européen, mais ça ne veut pas dire que toutes les histoires de fantasy qui contiennent des nains et des elfes sont des hommages à Tolkien. Par contre, c'est influencé. Et les lecteurs et lectrices, ou les joueurs et joueuses pour les jeux de fantasy, ou les spectateurs et spectatrices pour les films et les séries de fantasy, vont bien identifier l'influence. Ou encore, quand vous créez votre podcast et que vous allez piocher l'idée du générique en début dans tel podcast que vous appréciez, « Ah, j'aime bien cette idée de faire 5 secondes de générique, parler, machin, donc je vais faire aussi un générique parler de 5 secondes. » Ou alors, vous allez prendre la même longueur et le même format de tel autre podcast. Mettons, par exemple, vous aimez bien le format Q&A où les auditeurs et auditrices posent des questions en amont et vous répondez aux questions dans le podcast. « Ah bah ça, c'est un format qui me plaît, bah je vais aussi poser des questions à mon audience et mettre un format questions-réponses dans mon podcast aussi. » Voilà, donc ça c'est prendre l'influence d'un autre chose qui existe, d'aller piocher ce petit truc-là et d'aller l'adapter dans notre propre travail. Donc avec cette étape, ce que je trouve crucial de garder en tête, notamment pour bien se distinguer de la copie et donc du plagiat, c'est de multiplier les influences autant que possible pour piocher ici et là ce qu'on apprécie. C'est-à-dire que plus on a d'influences variées dans lesquelles piocher, plus on crée et on affine notre propre style, notre propre voix, notre propre manière de faire, et plus on s'éloigne de la copie pour trouver sa voix VOIX en multipliant les influences. Et en fait, je voulais souligner ça parce que je sais que, notamment dans le milieu artistique, par exemple chez les auteurs et autrices de fiction, c'est quelque chose qui se dit beaucoup. On retrouve parfois ce discours comme quoi « Oh, je préfère éviter de lire dans le même genre que ce que j'écris parce que je veux pas être influencée, je veux que mon écriture reste pure, etc. » Non, mais au contraire, l'écriture pure, ça n'existe pas. Tout ce qu'on fait est issu de l'écosystème dans lequel on se trouve. Si on sait parler, c'est parce qu'il y a des dizaines de milliers d'années d'êtres humains qui ont créé le langage, qui ont affiné la grammaire au fil des siècles, etc. Donc rien ne sort de nulle part, ça n'existe pas, ça. Donc du coup, si on a cet état d'esprit de se dire « je veux pas lire parce que je veux pas me faire influencer », déjà, on se prive d'influence, et on se retrouve à reproduire les deux trucs de fantasy qu'on a lus, par exemple « foutre des elfes et des nains partout », et c'est là qu'on voit le plus qui nous influençait, et paradoxalement, en essayant de faire quelque chose entre guillemets de « pur », c'est là qu'on se retrouve à faire quelque chose de plus classique et stéréotypé, alors que c'est ce qu'on essaye d'éviter. Donc ça, c'est la première chose. Mais en plus, on risque de se retrouver à réinventer la roue. Par exemple, en science-fiction, la science-fiction, c'est un genre qui explore énormément la pensée. Moi, j'aime beaucoup la science-fiction parce que c'est une manière d'explorer la pensée philosophique, par exemple, en imaginant des situations justement fictionnelles et en posant des problèmes philosophiques autour de ces situations fictionnelles, par exemple, j'en sais rien. Et du coup, en science-fiction, il y a pas mal d'expériences de pensée, de choses comme ça. Et ça, c'est des trucs que j'ai vus, des jeunes auteurs ou autrices qui ont une super idée, qui se disent « oh là là, c'est génial, je vais faire cette métaphore-là et c'est trop cool », sur laquelle va reposer toute sa nouvelle, tout son roman, alors qu'en fait, cette métaphore-là, elle a été faite et refaite et réinterprétée depuis 30 ans dans la littérature de SF. Mais comme cette jeune autrice ou ce jeune auteur n'a pas lu ses bouquins, il réinvente la roue, il ressort la métaphore en pensant que c'est lui qui l'a inventée, alors que du coup, il se retrouve à recréer ce qui a déjà été fait, à réinventer la roue, et à produire quelque chose finalement qui n'est pas original et qui n'a pas été enrichi par justement les autres écrits qui ont déjà abordé la question. Si vous voulez une comparaison avec ça, c'est un peu comme la recherche scientifique. Ce serait un petit peu dommage de s'empêcher de lire les travaux de recherche déjà effectués par d'autres chercheurs, et puis de refaire les mêmes expériences de zéro alors qu'elles ont déjà été faites. Ça n'apporte rien de plus, et puis les autres chercheurs qui vont lire vos recherches vont dire que ça a déjà été fait, qu'on est en train de réinventer la poudre, et que du coup ça sert à rien, et que c'est pas original, etc., etc. Alors que si au contraire, le chercheur multiplie ses sources, lit autant de choses que possible pour être bien au fait de l'état actuel de la recherche dans son domaine, de ce que les autres chercheurs ont déjà établi, eh bien, il peut déjà se baser sur ce qui a déjà été établi, puiser là-dedans et amener la recherche plus loin. Et en fait, c'est un peu ça le concept de multiplier les influences. Pour en revenir à l'exemple de l'auteur ou autrice de science-fiction qui a trouvé une métaphore qui a déjà été abordée, si au lieu d'écrire son truc sorti de nulle part, il lit les bouquins qui ont déjà exploré cette métaphore, ça permet d'enrichir son histoire et ça lui permet de se dire « Ok, et de quelle manière moi je peux aborder cette métaphore, de quelle manière je peux aller plus loin que ces auteurs qui l'ont déjà fait et que j'ai lu ?» Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est un peu ça le concept de multiplier les influences. Et on en revient à ma vision de l'écosystème créatif. En étant au fait de ce que l'écosystème contient déjà, et en vous nourrissant de ce que les autres acteurs de l'écosystème vous apportent, vous êtes plus à même d'y apporter votre bonus, votre pierre à l'édifice, votre petite avancée supplémentaire, puis de nourrir à votre tour cet écosystème avec vos idées. Ça vous permet d'éviter d'être coupé de votre propre écosystème, en fait. Voilà, donc ça c'est le deuxième stade de l'inspiration créative, qui est l'influence. Et enfin, le troisième stade de l'inspiration créative, c'est donc l'inspiration. Donc l'inspiration se fonde sur l'imitation et l'influence, qui tour à tour vous ont permis de construire votre voix VOIX, votre univers, votre marque, votre façon de faire, votre identité en quelque sorte. Et à ce stade-là, c'est le moment où on a commencé à avoir notre propre voix. C'est-à-dire qu'en ayant multiplié les influences, en ayant testé des choses, on a identifié ce qui nous plaît, on a identifié ce qu'on aime faire, en associant différentes influences de manière originale, on a finalement créé notre propre voix. Mais là, le risque qu'on peut avoir quand on commence justement à s'établir un petit peu, à explorer un peu notre voix à nous, c'est de rester dans notre propre tête et de tourner en rond en fait. Même une fois que notre voix est claire, du coup l'idée pour éviter de risquer de tourner en rond, ça va être de continuer à s'inspirer activement de choses qui ne sont pas forcément directement liées à notre domaine, puisqu'on s'est déjà enrichi de notre propre écosystème jusque-là, mais qui vont nous enrichir en tant qu'être humain, de manière générale, et qui donc enrichissent notre voix VOIX de manière générale. C'est un peu le concept de suivre notre curiosité. Par exemple, si vous montez une marque de savon bio, vous allez commencer par regarder ce que font les autres savonniers, puis un petit peu l'univers écolo, zéro déchet en général, etc. Puis vous allez regarder comment d'autres marques artisanales sans rapport avec le savon font les choses. Puis vous allez vous intéresser à toutes sortes de domaines qui n'ont a priori rien à voir avec le savon. Par exemple, j'ai un ami et client, Greg, qui tient une marque qui s'appelle Mon Savonnier, qui est donc une marque de savon artisanaux, etc. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'intéresse vachement à tout ce qui est nouvelles technologies, les développeurs par ailleurs, etc. Et paf, en suivant sa curiosité, en utilisant les choses qui l'intéressent par ailleurs, bah, il a fini par avoir une idée et par créer un moule pour ses savons avec une imprimante 3D. Et cette idée, il ne l'aurait probablement pas eue s'il ne s'était pas laissé guider par sa curiosité dans un domaine qui lui plaît, mais qui n'a a priori rien à voir avec la fabrication des savons. Vous voyez ce que je veux dire par là. Donc pour un artiste, cultiver l'inspiration et suivre sa curiosité, c'est s'intéresser à des arts en dehors de son art premier. Par exemple, aller voir des expos, des films, des pièces de théâtre, que sais-je. Ça peut s'intéresser à certains sujets de société, à d'autres loisirs créatifs, etc. Et de manière générale, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, que vous soyez artiste ou pas, c'est apprendre à s'ouvrir l'esprit de manière générale, en allant chercher des infos sur des sujets qu'on ne connaît pas du tout. Par exemple, en allant voir les pages aléatoires de Wikipédia, en voyageant dans des régions qu'on ne connaît pas, etc., etc. Donc pour terminer, je dirais que ces trois étapes, imitation, influence et inspiration, coexistent pour créer et entretenir notre écosystème créatif. Ça nous enrichit en tant qu'être humain. Et par ricochet, ça enrichit nos initiatives, nos projets, notre art, etc., etc. Donc si vous avez une chose à retenir de cet épisode, ce serait « Osez suivre votre curiosité ». Vous pourriez en récolter des choses bien plus utiles que vous ne le croyez. Si vous avez d'autres idées ou questionnements à partager sur le sujet, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire sous les notes de l'émission sur floriteller.com/bn116. Par mail à hello@floriteller.com ou sur les réseaux commerciaux, principalement Instagram, où je suis Floriteller. En attendant, merci infiniment d'avoir écouté cette bulle jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine !